Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
Il est 19h17 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la chef adjointe de la rédaction de Paris Match. Bonsoir, Virginie Leguet.
Bonsoir.
Avec l'éditorialiste du Figaro, Yvan Youfol. Bonsoir, Yvan.
Bonsoir.
Avec Xavier Couture, donc. Comment vous avez dit que vous appelez, pas dirigeant audiovisuel?
Non, soir, vous pouvez me dire consultant aujourd'hui.
Consultant, voilà, consultant.
Auteur de théâtre, accessoirement.
Consultant.
Ah.
Et Nicolas Domenac est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
La vidéo de la Discorde. Un an après l'affaire Théo, un film inédit montre d'un nouvel angle l'interpellation musclée du jeune homme par quatre policiers à Aulnay-sous-Bois. La scène est d'ailleurs assez confuse. On y voit Théo se débattre. À un moment, il reçoit bien un coup de matraque télescopique avant de s'effondrer. Mais il est furtif alors qu'un des quatre policiers est toujours mis en examen pour viol et que ses trois collègues ont été réintégrés. Pour certains, cette vidéo accrédite la thèse d'une bavure. Pour d'autres, au contraire, la preuve que Théo a menti. Pour vous, on va voir, puisque tout le monde l'a vu cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la voir évidemment sur le net. Benoît Galeret.
C'est assez troublant en effet, puisqu'on n'y voit pas du tout la même chose. Pour Thomas, la seule question qui reste après avoir vu ces images, c'est pourquoi Théo a-t-il menti? Mais Siam en a de nouvelles. Pourquoi le contrôle a lieu hors du champ couvert par la caméra? Pourquoi le policier utilise-t-il sa matraque de manière horizontale pour donner ce coup à Théo? Et pourquoi diffuser cette vidéo maintenant alors qu'on l'a sans doute depuis longtemps? En tout cas, dit Ahmad, le dernier coup est clairement volontaire. Et voilà, ça avait commencé par cet un viol. Aujourd'hui, c'est coup volontaire. Demain, ce sera quoi? Mes excuses aux policiers, soupire Gribaud. Mais enfin, s'énerve Coralie, maîtriser quelqu'un avec un coup de matraque à cet endroit-là, c'était pas nécessaire. Théo est un menteur peut-être, mais dire que ça c'était pour le neutraliser, je suis pas du tout d'accord. Et Maxime de rappeler que les policiers sont censés être formés pour se faire respecter sans nous violer. On voit bien qu'ils font ce qu'ils peuvent face à une bande d'excités, rétorque Miranda, qui parle de cruelle infamie pour ces policiers. Dans notre état de droit, on obtempère à la police, sinon il y a des conséquences, dit-elle. Ce qui est édifiant avec cette vidéo de Théo, conclut Gauthier, c'est que chacun y voit uniquement ce qu'il veut. Violence policière pour les uns, refus d'obtempérer pour les autres. C'est si compliqué d'admettre qu'il y a peut-être les deux.
Alors pour vous, Xavier Couture, vous l'avez vu cette vidéo, vous êtes plutôt Théo victime d'une bavure ou plutôt Théo qui s'en prend à des policiers et qui d'un coup, est maîtrisé.
La vidéo, elle montre une action qui est extraordinairement rapide. Ça va très vite. Et donc je me mets à la place de Théo qui est à la fois l'interpellé et donc d'une certaine façon probablement en état de rébellion, mais en même temps devient assez vite victime. Je pense que sa mémoire a dû effectivement être un peu endommagée par ce qu'il subit. Alors, est-ce que le pantalon tombe avant? Est-ce qu'il y avait son caleçon, pas son caleçon? Faut quand même pas charrier. Il y a eu quand même, d'abord, une interpellation qui se fait hors de la vision de la caméra.
Et volontairement, ça s'éclaire. Quand on voit la vidéo...
Non,
mais je dis volontairement, les policiers amènent les jeunes
en dehors du champ de la caméra. Et ça dégénère. Pourquoi ça dégénère? On n'en sait strictement rien. On peut imaginer que ça ne s'est pas passé très bien dès l'origine. Et derrière, ce que l'on voit, je vous assure, on est dans un état de droit. Je veux bien tout ce qu'on veut à propos de ce Théo. Il a peut-être été maladroit, j'en sais rien. Peut-être qu'il était peut-être même délinquant. Mais on ne peut pas traiter un gamin comme ça. On ne peut pas. Et donc, la manière dont, à quatre, ils se mettent pour arrêter ce gosse, et la manière dont la matraque est évidemment et volontairement mise entre les jambes, faut pas me dire qu'il voulait viser des cuisses, il voulait probablement lui viser soit les testicules, soit je ne sais quoi, toujours est-il qu'il s'est enfoncé de 6 cm dans son anus. Faut quand même pas charrier, c'est quand même... Ben oui, c'est ce qu'on voit.
On voit très bien qu'il a mis
un coup de matraque horizontal dans le postérieur de Théo. Pardonnez-moi, si c'était pas volontaire. Moi, je suis pas.
On voit un coup de matraque sur les fesses. Mais alors vraiment, si vous avez vu ça.
C'est ce que je dis.
Sur les fesses, ça ne veut pas dire dans l'anus. Mais enfin bon, on ne va pas rentrer
là-dessus. Non, mais pour vous donner la parole, mais juste pour amener les faits. Aujourd'hui, personne ne conteste que le coup de matraque est rentré dans l'anus. Après, volontairement ou pas, c'est toute la question. En tout cas, dans l'anus, il n'y a pas de débat.
J'ai regardé cette scène filmée, ça dure 20 secondes. J'ai regardé deux fois parce que, effectivement, je voulais comprendre ce qui se passait. Moi, ce que j'ai vu, c'est la construction d'une désinformation anti-flic. Avec l'aval, d'ailleurs, du pouvoir. Parce que, après cette agression, François Hollande est allé au chevet de Théo, du petit Théo, comme disaient les médias, 1m96, 22 ans, 90 kilos, le petit Théo, qui avait subi La violence policière, quand on voit cette scène, on voit quatre policiers qui tentent de maîtriser Théo, qui ne veut pas donner ses papiers, qui se défend comme un beau diable avec ses 90 kilos, et qui perd son pantalon durant cette altercation, alors même qu'il a dit devant les enquêteurs qu'on lui avait baissé son pantalon afin ensuite de lui mettre la matraque. Et on voit ensuite une scène très furtive où un policier, et on la voit d'ailleurs à peine, sort sa matraque pour essayer de lui coller sur la fesse gauche, parce qu'il semble, d'après ce que j'ai compris, que ce soit une manière...
Oui,
c'est la fesse
gauche.
Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, on se demande pourquoi cette vidéo, assez lisible de mon point de vue, mais enfin bon, visiblement ce n'est pas le cas, a mis un an avant de sortir, sinon pour essayer de cautionner cette désinformation,
Vous ne pouvez pas dire que c'est une désinformation.
Si, c'est une désinformation qui était ciblée afin que ce soit les flics qui soient désignés comme coupables. Non, d'ailleurs, avec l'aval du maire d'Aulnay-sous-Bois, M. Bigéjac, qui est un ancien policier, quelqu'un du Parti Républicain, qui a dit que cette famille était très honorable. On se rend compte en plus, parce qu'il y a des suites à tout cela, on se rend compte que la famille de Théo était tout sauf très honorable, puisqu'elle-même est sujette à une information judiciaire pour des détournements de fonds, etc. Bref,
mais c'est pas le sujet.
Tout ce qui nous a été offert du petit Théo qui a été la victime innocente des policiers se révèle être, au contraire, une rébellion contre les flics, et que les flics ont eu raison, dans le fond, de pouvoir maîtriser ce petit Théo-là.
Bon, moi, je me fiche un peu de ce qu'a fait la famille de Théo. Certes, c'est pas un petit Théo, c'est un grand gaillard assez solide. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Je sais pas si j'ai une aussi bonne vue que vous, messieurs. Ce que j'ai vu m'a montré deux choses. Un, que Théo ne voulait pas se laisser contrôler son identité. Et que deux, effectivement, il y a eu une violence policière. La question qui se pose, malgré tout, et là, moi, je sais pas si c'est la fesse gauche, pas la fesse gauche, le milieu de la fesse, pas le milieu de la fesse, c'est est-ce qu'il y a viol? Est-ce qu'il y a coup? Il y a coup. Est-ce qu'il y a viol? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un viol volontaire? Je serais incapable de le dire. Donc, est-ce que le fait d'avoir relâché... Et puis, autre nuance que j'apporterai, quand vous dites qu'ils sont tous les quatre acharnés sur Théo, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils sont pas tous les quatre. Ils sont deux, puis un, puis ils sont pas tous les quatre ensemble. Donc, il y a effectivement bagarre. Théo ne se laisse pas faire. À un moment, le policier tombe par terre, d'ailleurs, qui est un moment avant le moment où il tape Théo. Et quand il tombe par terre, il déclenche sa bombe lacrymogène. Voilà. Et il la déclenche apparemment totalement involontairement. Donc on voit bien que ça s'est fait dans la précipitation et la bousculade. Mais c'est tout à fait différent que de dire qu'il l'a volontairement enfoncé son...
C'est toute la question. C'est l'intention ou pas d'enfoncer sa matraque.
Je termine. Je serais un fichu, et je l'ai regardé au moins quatre fois, un fichu de dire que c'est volontaire. Moi, je dirais plutôt que ça s'est fait dans la précipitation et peut-être la panique.
Non, mais qu'il donne un coup de matraque volontairement derrière le dos de Théo, ça se voit. Maintenant qu'il ait voulu le violer,
la
justice le dira, et j'ai bien incapable de le dire.
On est sur des positions tout à fait différentes.
Je n'ai pas corroboré le fait qu'il ait été violé. Je dis simplement qu'il y a un coup de matraque volontaire qui est placé plutôt sur la fesse gauche, droite, ou au milieu.
Pas. Moi, j'ai pas
je suis
vu
bien
ça.
Incapable de le dire. Il n'y a que Yvan qui a vu la fesse gauche. Mais en tout cas, résultat des courses, il a été violé.
Est-ce qu'il pourrait arriver qu'on ne voit pas les choses de manière borgne, c'est-à-dire soit d'un œil gauche, soit d'un œil droit? Parce que c'est ce que disaient les internautes. Ce qui est quand même frappant, c'est que vous avez sur Internet tout le Front National qui se déchaîne. Alors, j'ai jamais vu autant de responsables du Front National faire des tweets pour dire on voit bien que les policiers sont complètement innocents, et puis de l'autre, effectivement, d'autres qui disent exactement l'inverse. Mais si vous regardez tranquillement cette vidéo, vous voyez qu'effectivement, il y a eu une rébellion à Agen, vous voyez que le jeune Théo refuse qu'on lui passe les menottes. On peut d'ailleurs s'interroger, j'ai pas la réponse, pourquoi on veut lui passer les menottes, forcément. Je veux dire, c'est une question, est-ce qu'on passe les menottes dans tous les contrôles d'identité? Je crois pas. Je pense que c'est vraiment quand il y a des cas extrêmes. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. La seconde partie, j'ai assisté plusieurs fois à des contrôles d'identité, à des gens remis à l'ordre sévèrement. J'ai jamais vu des coups de matraque donnés de manière horizontale. Je veux dire, c'est quand même un geste d'une violence absolument inouïe. Alors, je parle pas de viol, rien.
C'est ce qu'on voit. Alors, peut-être dans la précipitation, je sais pas s'il y a intention, mais le coup de matraque est donné de façon horizontale.
C'est ce que je dis.
Et pas
de haut en bas.
Et la scène dure une seconde.
Et la scène, mais nous sommes bien d'accord. C'est pour ça que je dis. On dit la même chose. C'est pour ça que c'était saisissant.
Dans un tumulte et d'un...
Je me permets quand même, Nicolas, de vous interrompre une seconde pour quand même
bien
répéter que tout naît d'une scène qui a lieu hors du champ des caméras. Et que j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé à ce moment-là.
Oui, ils sont allés derrière un mur pendant 55
d'une
secondes.
D'une scène d'ailleurs. Pour essayer d'avoir à contrôler leurs papiers, on ne sait pas. Enfin, mais en tout cas, devant les caméras, on voit bien ce qui se passe.
Ils les entraînent hors caméra.
Oui,
d'une scène d'ailleurs étonnante, parce qu'on n'en connaît pas les tenants et aboutissants, mais moi j'étais très surpris de voir un aussi petit nombre de policiers venir intervenir auprès d'un nombre de jeunes beaucoup plus important, quoi. Tellement supérieur. En général, on n'intervient pas aussi légèrement face à un nombre de jeunes aussi fort.
C'est vrai.
En tout cas, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette affaire il y a un an. La vidéo sort un an après, et finalement, on peut pas. Ça, pourquoi ça ne sert à rien?
Je parlais moi d'une construction, d'une désinformation, parce que cette vidéo, elle était connue avant, et je pense qu'elle peut quand même dissiper pas mal de.
Il y en a
encore quelques-uns, mais enfin, très honnêtement, pour celui qui voit la scène, il voit bien une scène de violence avec des précipitations, et il ne voit pas des intentions de viol. Enfin, pour moi, ça me semble quand même évident. Et donc, il faudrait quand même s'interroger de savoir pourquoi il y a eu cette telle violence. Petit Théo, moi j'adore quand même ce petit Théo.
On a déjà eu ça.
Non, mais regardez, ils nous l'a servi.
Je suis en train de passer à un autre sujet. Vous l'avez dit exactement la même chose il y a 5 minutes, Yvan.
Parce que je voulais dire autre chose, parce que je voulais dire qu'on n'avait pas vu non plus Hollande aller au chevet des deux policiers qui avaient été brûlés vifs dans leur voiture 4 mois auparavant, et on l'a vu se précipiter. C'était quand même très choquant au chevet du petit Théo.
Allez, l'affaire Darmanin, on en parle dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fauchet.
Et avec Virginie Le Guet, Xavier Couture, Yvan Youfoll et Nicolas Domenac à 19h32 sur RTL. Il était le bon élève du gouvernement, la jeune pousse brillante débauchée des Républicains, mais Gérald Darmanin aujourd'hui dans la tourmente après la réouverture d'une plainte pour viol déposée par une ancienne call girl. Une pétition et les Républicains réclament sa démission. On voit bien que le monde virtueux, irréprochable d'Emmanuel Macron se casse la figure à développer la porte-parole des Républicains. Le gouvernement fait bloc. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa appelle à laisser la justice travailler. Pour vous, simplement, Gérald Darmanin doit-il démissionner au nom de l'exemplarité sur les réseaux sociaux, Benoît ?
C'est très partagé. Caroline De Haas résume pour ne pas s'y perdre, dit-elle. Enquête préliminaire pour emploi fictif, démission. Enquête préliminaire pour atteinte aux biens, démission. Enquête préliminaire pour viol, il a toute ma confiance. Voilà. Et si on en a accusé à tort, les premiers éléments de l'enquête ne sont guère rassurants pour la plaignante Rétor Comar. Il se trouve que la fille était une ancienne call girl, déjà condamnée pour chantage et qui avoue avoir couché avec Darmanin contre service, réplique Louise. Et donc si tout le monde porte plainte contre chaque ministre, ils démissionnent tous, c'est ça, sans preuve, sans rien, soupire Sébastien. Grib le dit autrement, si tous les dragueurs lourds devaient quitter leur boulot, le chômage risquerait de faire un bond. Je les défends pas, mais Twitter n'est pas un tribunal, dit-elle. Pour le moment, il est présumé innocent et ce que décrit le monde ressemble plus à un marchandage malsain qu'à un viol, défend encore Henri. Mais Marie répond qu'il faudrait aussi s'intéresser à ces hommes qui ont le pouvoir de vous aider et le font en échange de faveurs sexuelles. C'est un abus de faiblesse au moins, Darmanin ne se grandit pas. C'est le genre qui ne se passe jamais de sa liberté d'importuner, grince Mika. On n'attend pas la justice avant, demande Vincent. C'est quand même intéressant de constater que pour beaucoup, des accusations de viol relèvent forcément d'une vindicte féministe hystérique, note Kat. La seule question est morale, conclut Philippe. Acceptons-nous encore en 2018 que des élus mâles utilisent leur position pour des interventions sexuelles? C'est ça le sexisme, un système de domination sur des femmes vulnérables. Qu'en dit le président et qu'en dit le Premier ministre?
Et qu'en dit Nicolas Domenac?
Je dis d'abord, pour commencer par là, que les déclarations des Républicains, du Parti des Républicains, sont indignes. Que se servir de ce genre d'affaires comme manipulation politique, c'est insupportable. C'est-à-dire à la fois pour affaiblir un pouvoir en place et aussi pour bien montrer à tous ceux qui auraient l'intention de quitter les Républicains qu'ensuite on leur réglerait leur compte d'une manière ou d'une autre, quitte à employer les plus bas moyens. Enfin, de faire exécuter ça par une ancienne proche de Xavier Bertrand, Laurence Saillet, je trouve que c'est typique d'un parti stalinien, quoi. On fait porter le fer par ceux qui vous étaient les plus amicaux autrefois.
Donc c'est pour les Républicains, Gérald Darmanin au moment où le gouvernement... le gouvernement fait de l'égalité homme-femme, toutes ces questions-là, presque une priorité.
Oui, moi j'ai pour principe de ne délégitimer ni l'accusatrice, ni l'accusé dans cette histoire-là. Je pense qu'il ne faut pas se dire comme mécanique absolue, laissons la justice poursuivre. Mais là, en l'occurrence, tant qu'il n'y a pas mise en examen, il faut respecter la règle. Moi, je la respecte, en l'occurrence.
pense.
Mais peut-être que pénalement, ce qui lui est reproché n'est pas répréhensible, mais peut-être que moralement un peu plus. Est-ce que le gouvernement ne doit pas faire un peu de morale aussi? Est-ce que c'est son rôle ou pas?
C'est affreusement compliqué, cette histoire. Moi, j'ai lu l'intégralité du papier, des papiers qui relatent les faits. Honnêtement, le viol, puisque l'accusation de la plaignante est donc un viol, le viol a lieu après que Gérald Darmanin l'avait emmené dans une boîte assez célèbre à Paris qui s'appelle Les Chandelles.
Boîte échangiste.
Une boîte échangiste. Alors, c'est assez...
Oui, c'était rien passé entre eux.
Non, mais peut-être, mais accepter d'aller dans une boîte échangiste, dire il ne s'est rien passé entre nous, pour accepter ensuite d'aller dans un hôtel minable, on n'est pas obligé de monter non plus dans l'hôtel. Enfin, je dirais, mais tout ceci, j'imagine qu'il a peut-être, utilisé la puissance qui était la sienne à ce moment-là d'intervention pour obtenir des grâces. Je crois qu'à l'époque des faits, il avait 26 ans, il en avait 37. Donc là aussi, elle était dépassée. C'était pas une enfant innocente sortant. Alors, j'ai le plus grand respect pour l'égalité homme-femme, et je suis un grand, comme vous le savez, très grand défenseur du féminisme. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même assez compliqué de lyncher ce garçon quand on regarde les faits. Et je vous renvoie à la lecture du papier qui est paru dans Le Monde, et qui est sous la signature de Caroline Grandjean, Blandine Grandjean, sur les zones grises, sur ces moments un peu étranges qui renvoient
sur le consentement, quoi.
Une relation d'une femme et d'un homme, oui. Et donc là, en l'occurrence, moi je rejoins ce que dit Nicolas. Laissons, pour le coup, j'ai pas d'avis tranché, laissons vraiment la justice faire, sachant que les faits sont tout de même vraiment très étrange, très trouble, et qu'il est très difficile de condamner Gérald Darmanin. Je ne le défends pas, mais de là à le condamner, franchement, ça me paraît impossible.
Et vous, Virginie ?
Moi, je suis mal à l'aise, parce que ma pente naturelle serait de soutenir quelqu'un qui se dit accusé de viol. On sait que c'est très difficile de porter plainte pour viol, et très difficile de mener la plainte jusqu'à son terme. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui me mettent effectivement très mal à l'aise. Le fait que elle ait voulu monnayer, échanger l'effacement d'une trace sur son casier judiciaire pour harcèlement avec un ancien compagnon, avec quelqu'un qui était chargé des affaires juridiques à l'UMP, déjà ça me met mal à l'aise. Le fait qu'elle ait accepté une invitation à dîner, deux, ça me met mal à l'aise. Qu'elle l'ait suivie aux chandelles, trois, ça me met mal à l'aise. Qu'elle soit allée à l'hôtel...
Elle dit, pour être claire, j'étais prête à tout ça pour qu'il me rende ce service, quoi.
Bon, d'accord. Bon, enfin, moi, je serais pas prête à ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Beaucoup de femmes qui seraient prêtes à rien du tout non plus. Tout ça, ça me mettrait mal à l'aise. Après, j'ai entendu son avocate à elle, qui n'est d'ailleurs pas sa première avocate, mais l'avocate qu'elle a prise quand elle a relancé la plainte, et qui dit... Oui, bon, il n'y a pas eu de force physique, il n'y avait pas de consentement. Je ne sais pas, enfin, il n'y a pas de consentement, elle a l'âge qu'elle a, elle ne voulait pas y aller, elle n'y va pas. Visiblement, il ne l'a pas violentée, si j'ai bien compris. Donc, effectivement, tout dans cette affaire me mettrait mal à l'aise. Et là où je suis d'accord avec Nicolas, c'est que le fait que la politique s'en mêle, que tout le monde dise, j'ai confiance en Gérald Darmanin, qui et notamment le Premier ministre, et notamment le Cornu, qui, comme par hasard, viennent de sa même famille politique, ça aussi, ça me met mal à l'aise. Le fait que toutes les féministes montent au créneau, ça me met mal à l'aise. En fait, finalement, cette affaire est brouillée par les arrière-pensées de tout le monde, et à commencer, bien sûr, par la sienne, parce que je rappelle que la victime n'a porté plainte réellement que quand il est devenu ministre. Là aussi, ça me met mal à l'aise. Enfin, voilà.
Yvan,
je ne sais pas quoi dire de plus, mais tout me met très mal à l'aise.
Yvan. Je ne vais pas pouvoir rajouter grand-chose, parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, j'y vois l'effet délétère quand même de cette parole libérée dont se revendique un certain nombre de ces néo-féministes, dont celle qui réclame sa démission aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui maintenant qu'à travers ces accusations lancées à la volée contre les mâles, on confond tout. On confond le viol, on confond l'agression sexuelle, on confond les coucheries, on confond tout cela. Il suffit maintenant de se prétendre victime d'une domination masculine pour ensuite avoir le statut de victime, qui est un statut qui vaut a priori accusation pour celui qui...
Il est présumé innocent, elle est présumée innocente.
Mais vous ne pouvez pas démonétiser quand même un peu, malgré tout. Il ne l'a pas violé. Mais
écoutez, moi je trouve très...
Il était manifestement prêt à lui rendre des services contre...
Oui, il lui a fait croire, en tout cas.
Je trouve très dérangeant que ni le passé de cette femme, ni son comportement durant sa soirée, ni son désir de nuire, parce qu'il y a bien quand même aussi le désir de nuire vis-à-vis d'un homme, ne soit pris en compte et que l'on s'acharne pour l'instant sur Darmanin. Et je suis d'accord avec Domenech quand il dit que les républicains... les républicains, je ne sais plus comment ils s'appellent maintenant.
Les républicains.
Ils s'appellent toujours les républicains. S'acharnent aujourd'hui pour demander la démission l'ambition de Darmanin, alors qu'ils sont en train d'aboyer avec la meute, de violer une présomption d'innocence, et puis surtout de prêter le flanc à une sorte de quête morale, de pudibonderie qui viendrait maintenant vous soulever les draps pour voir si votre comportement intime est un comportement respectable ou si c'est un comportement qui est un peu olé olé. Mais enfin, foutez-lui la paix, je pense que si je ne vois pas où il y a le viol pour l'instant là-dedans, et je trouve que c'est un très mauvais combat que mènent en tout cas les Républicains.
À tout le moins, il y a chantage et position de force contre peut-être...
Et puis il y a une vraie volonté de nuire, en revanche, de la part de cette bonne femme.
Allez, dans un instant, on dit juste un mot des delphinariums qui gagnent au Conseil d'État, avant de parler tout à l'heure des policiers municipaux dans les écoles.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Et avec Yvan Youfol, Xavier Couture, Virginie Leguet, Nicolas Domenac sur RTL. Vous l'avez entendu dans le journal, les delphinariums ne couleront pas. Le Conseil d'État vient d'annuler un arrêté interdisant la reproduction des dauphins et des orques en captivité. Cette décision prise par surprise par Ségolène Royal avant son départ du ministère de l'Environnement est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Mais la question pourrait revenir très prochainement sur le bureau de Nicolas Hulot. Alors faut-il interdire ou non ces parcs marins, puisque c'était la volonté de Ségolène Royal, Virginie Leguet.
Mais en tout cas, là, on a bien vu que c'est une décision sur la forme, pas sur le fond. Mmh. Donc un arrêté correctement libellé pourrait de nouveau faire l'objet d'un examen devant le Conseil d'État et, qui sait, être approuvé par le Conseil d'État. Donc la manche n'est pas gagnée. Mmh. Moi, j'ai lu que les dauphins, qui sont des animaux très intelligents, étaient très malheureux lorsqu'ils vivaient dans ces conditions-là, qu'ils étaient déprimés, qu'ils étaient de fait, on vous imagine bien, qu'ils ne sont pas faits pour vivre dans ces conditions-là et que même quand on voulait après les remettre en liberté, si tant est qu'on les refaisait, ils sont plus capables de vivre dans leurs conditions naturelles parce que ben, ils savent plus le faire, ils ont plus la défense, ils ont pas les moyens intérieurs de vivre ailleurs que comme ça, qui est quand même dans des conditions très malheureuses. Donc moi je serais plutôt pour les interdire ou alors faire ce qu'on a appelé à un moment, j'ai vu des propositions de réserves naturelles dans la mer où là ils seraient dans un milieu disons acceptable pour eux et on pourrait les voir dans des réserves beaucoup plus grandes.
C'est votre avis, Yvan ?
Je n'ai pas vraiment d'avis, mais enfin, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la justice avait permis à ce que, aujourd'hui, dans ces genres d'aquariums, les dauphins puissent procréer, se reproduire. Enfin, s'ils se reproduisent, c'est donc qu'ils ne sont pas malheureux. Parce que,
il y en a 10 sur 30 qui sont morts quand même.
Je peux imaginer quand même que s'ils ont le désir.
Ça demanderait un débat de cours.
Oui, d'accord, c'est vrai. Oui, je reconnais. Je reconnais que ça peut être assez drôle. Mais ce que j'ai pu voir quand même de la déprime de ces animaux-là, en général, quand ils sont déprimés de telle manière, ils n'ont pas du tout envie de se reproduire. C'est ce que je voulais dire. Mais en effet, bon, je vois bien avec votre esprit, ça lasse. Oui, d'accord. Bon, j'oublie. Alors, mon argument ne va pas
tomber.
Alors, j'ai un deuxième argument qui me fait dire que je n'ai pas d'opinion, c'est que je trouve que ceux qui vont voir ces dauphins-là sont un public qui adore les animaux. Donc, j'imagine que s'ils adorent les animaux, ils n'aimeraient pas les voir souffrir.
C'est d'ailleurs l'argument du patron du delphinarium qui disait que ses soigneurs sont au contraire amoureux de ces bêtes et qui se lèvent tous les matins.
Et donc, c'est un autre argument à entendre qui me ferait dire qu'il faut toucher à rien. Et d'autant que l'ultime argument, ce serait malgré tout de dire que si vraiment ces eaux, ces aquariums, etc., sont épouvantables, c'est au public, dans le fond, de décider de les boycotter. Or, pour l'instant, ça répond à une demande justifiée, parce que je trouve plutôt agréable, en effet, d'avoir à... Je n'ai jamais été dans un delphinarium, enfin, j'imagine que ça aurait été assez sympathique pour les enfants d'aller voir ça.
C'est ça, c'est les enfants, surtout.
Et oui. On parle des enfants, oui, mais on est des grands-enfants aussi. Ou voir des ours ou des éléphants, et donc je trouverais dommage d'avoir à priver, parce qu'on parle des delphinariums, on parle aussi de derrière les cirques, etc. Il y a toute une...
Mais c'est un mouvement, c'est une révolution, le bien-être animal.
C'est un mouvement, mais écoutez, je ne suis pas...
C'est comme la révolution féministe.
Ah, ben il est possible. Ah bon, vous mettez les animaux, les femmes, tout ça dans le même machin, d'accord.
Il y a des révolutions qui sont en cours, et bien vous pouvez faire tous les blocs-notes éventuellement talentueux pour essayer de stopper ce mouvement d'histoire.
Je suis très humble là-dessus, vous avez...
Vous n'y pourrez rien,
je suis très touché que vous
intéressiez,
dauphins,
que les enfants, effectivement, il y a un sentiment d'avoir envie d'y aller. Mais sauf que le bien-être animal, il va au-delà. Je veux dire qu'on peut tromper les enfants, leur dire qu'ils sont heureux en vivant comme ça, mais on sait très bien que ce n'est pas le cas, quoi, qu'il y ait de la maltraitance animale, que ça en fait partie, et qu'il faudra bien, à un moment ou un autre, fermer ces endroits-là, qui ne sont pas faits pour que ces animaux, ils sont faits pour vivre dans leur élément naturel et pas en captivité.
Franchement, que les propriétaires des parcs disent c'est merveilleux, ils sont très heureux, c'est tellement évident, c'est tellement, ça n'a pas
alors,
de sens.
Moi, j'ai la plus grande solidarité.
Ils défendent leur business.
Plus grande solidarité avec les Tursiops truncatus dont il s'agit, car ces dauphins s'appellent les Tursiops truncatus.
D'accord.
Ils ont été, ce sont les descendants du SeaWorld de San Diego, où moi, j'ai effectivement emmené mes petits-enfants, voir les descendants de Shamu, le premier orque qui a été accueilli. Je partage le point de vue de Nicolas. C'est-à-dire que, évidemment, l'opinion a changé à l'égard des violences faites à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont subi des violences. On ne peut pas tout assimiler, évidemment, mais en tout cas, les animaux sont aujourd'hui devenus un sujet de préoccupation pour l'ensemble des populations qui se disent « on ne peut pas les faire souffrir ». La mauvaise, je dirais, c'est un mauvais exemple, parce que c'est probablement dans ces delphinariums que les animaux sont le moins maltraités. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on ne peut plus le supporter. Évidemment que si les enfants à qui on donne à manger des omelettes ou des œufs à la coque allaient voir dans quelles conditions sont élevées les poules qui les pondent, si on allait voir la manière dont on abat les animaux dont on leur sert des quelques steaks ou quelques escalopes, ils arrêteraient évidemment parce que ces violences-là sont 1000 fois pire, 10 000 fois pire. Mais il est certain qu'aujourd'hui, tout ce qui d'une manière ou d'une autre renvoie à la domination de l'homme sur l'animal et à son utilisation comme un objet de plaisir purement spectaculaire est aujourd'hui remis en cause. La corrida sera la prochaine victime, bien entendu.
Votre raisonnement ne s'arrête aux animaux domestiques. Donc, vous laissez les animaux domestiques sont les premiers à être également victimes de cette domination humaine, de cette domination de l'homme. Mais on ne remet pas en cause ça. Donc,
attendez, Yvan.
Mais ça n'a rien à voir.
Il parlait de domination humaine.
Les dauphins ne sont pas des animaux domestiques.
Non, mais connaissances scientifiques.
Je sais faire la différence entre le domptage naturellement et la domestication. Mais malgré tout, vous rentrez toujours.
Ils sont en
toujours,
captivité, ça n'a rien à voir.
Vous rentrez toujours dans cette dialectique de la domination humaine.
Allez, on change de sujet. Un dernier dans un instant, des policiers dans les écoles.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fogiel.
Des policiers municipaux dans les écoles, ça débutera en mars prochain à Nice. Jean-Michel Blanquer a donné son feu vert. Vous avez entendu sur RTL Christian Estrosi défendre cette expérimentation. Les policiers non armés seront chargés de la sécurité à l'intérieur et aux abords des établissements. Le syndicat de défense des policiers municipaux estime que cela pourrait s'avérer dangereux. Ils peuvent être pris pour cible. La CGT Éducation préférerait des renforts de personnel scolaire. Vous approuvez ou pas cette initiative niçoise? Très rapidement sur les réseaux sociaux, Benoît.
Ils seront en uniforme, en civil ou déguisés en redoublant avec un rec? Plus sérieusement, Marchand se demande si les élèves auront plutôt peur ou s'ils se sentiront en sécurité. Ils sont pas armés, à quoi ça sert? Armez-les, s'énerve Saphir. Mais non, c'est démagogique et ils répondent même pas à une réelle menace, assure Anne. Audrey se demande tout de même si ça pourrait pas restaurer la confiance entre jeunes et police. Mais Pascal rétorque que l'école est un lieu de liberté, ou alors ce n'est plus l'école, mais un lieu dangereux. Ludo craint surtout, mais que l'agence fasse chier grave et c'est pas lui tout seul qui va faire peur à un potentiel terroriste, c'est ridicule. Pour Jean, c'est une décision purement électoraliste qui n'a aucune logique ni du point de vue de la sécurité, ni de la discipline, ni de l'éducation. S'il faut investir dans des fonctionnaires, oui, mais pas des policiers, surveillants, des aides aux devoirs, confirme Seb, et même, soyons fous, des enseignants, conclut Len.
Yvan Rieffol, des policiers dans les écoles?
Non, franchement, c'est un aveu d'échec. Pourquoi pas demain des militaires, des soldats? Donc, ça ne me paraît pas être une bonne solution. D'autant qu'en effet, ça a été dit, ça mettrait ces policiers en état de cible permanente face à des violences extérieures ou intérieures. Donc il faut repenser. Je comprends bien que le problème de l'insécurité maintenant dans les établissements scolaires soit un vrai casse-tête, mais il faut repenser à un usage interne, ce que pourrait être cette sécurité-là. Moi, mon expérience, quand j'ai financé mes études en étant surveillant, en étant pion, je n'ai jamais compris pourquoi ce boulot d'externe, de surveillant d'externat, je ne sais pas comment on appelle ça comme ça, les surveillants d'externat, avait été supprimé, parce qu'on était relativement utile, on était présent du matin jusqu'au soir, à l'entrée, à la sortie, pendant les réfectoires, pendant les études, on était dans la cour, etc. Et ça se passait, bien sûr, il y avait moins de violence qu'aujourd'hui, mais moi j'en ai gardé de très bons souvenirs, et je vois pourquoi, par exemple, on ne pourrait pas réhabiliter ces pions-là, ou d'autres choses du même genre.
Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça étonnant, l'idée de la restauration du pion qui est avec ou sans uniforme, ou l'uniforme de redoublant, comme disait l'internaute qui ne manquait pas d'humour. Mais je ne vois pas très bien l'intérêt. Alors, s'il est armé, ça devient effectivement un danger, y compris pour les élèves, qui si ça tourne mal, ça pourrait effectivement...
Aux États-Unis, ils sont armés. Aux États-Unis, ils sont armés, les policiers dans les écoles.
Aux États-Unis, ils sont armés, mais comme vous le savez, cher Marco, nous ne sommes pas aux États-Unis, et heureusement pour nous, parce que c'est, moi, je serais quand même assez inquiet de voir un policier armé entrer dans une cour d'école. Enfin, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, les violences sociales étant ce qu'elles sont, on peut toujours imaginer qu'il y ait une bavure, que ça dégénère. Donc franchement, je préfère qu'il ne soit pas armé. Je ne vois pas très bien à quoi il sert. C'est ça mon problème. C'est que s'il n'est pas armé, il ne sert à rien. S'il est armé, ce n'est pas souhaitable. Moi, je veux bien que ce soit à Nice et qu'on se réjouisse que ce soit à Nice que la tentative soit effectivement opérée par la municipalité. Mais si c'est pour contrer des camions qui foncent dans la foule, je pense qu'un policier non armé dans la cour de l'école ne va pas servir à grand-chose. Donc honnêtement, pour moi, c'est assez mystérieux.
Mais Yves Calvi l'a parfaitement résumé devant Christian Estrosi. Donc ça serait des super concierges. Parce que Christian Estrosi avait du mal à préciser justement leur utilité sociale. Est-ce qu'il s'agissait de renouer le lien entre policiers et enfants, enfin, et population d'une certaine façon? Du coup, on est resté flou, on est arrivé à ce côté, ce rôle de super concierge qui n'est pas évident. Moi, je suis tout à fait dans l'affaire du côté de la CGT qui dit qu'il a calculé que le prix, c'est 8 800 sorties en car, que ça permettrait de redresser. C'est la situation des infirmiers et infirmières qui manquent dans les établissements scolaires, et sans parler des emplois aidés qui ont été supprimés. Je veux dire que là, je ne comprends pas. Je veux dire qu'on a supprimé d'un côté ce qui était utile et on nous fait rentrer quelque chose dont l'utilité n'est pas avérée.
Et vous, Virginie Le Guay ?
C'est-à-dire que cette expérimentation qui en est une et dont on tirera le bilan, elle a quelque chose de trompeur, parce que finalement, le soi-disant policier qui va rentrer dans l'école, il n'aura plus aucun des attributs d'un policier. Il sera sans arme, dans un bureau, et il sera, si j'ai bien compris, supposé vérifier les badges électroniques, ceux qui rentrent, ceux qui sortent, ce qu'aurait pu faire un pion. C'est une fausse rassurance pour les parents. D'ailleurs, si j'ai bien compris l'histoire. C'est la communauté des parents ou une importante communauté de parents de Nice qui a demandé que des mesures soient prises après l'attentat survenu l'été 2016. Et au départ, Christian Estrosi avait proposé des policiers privés et finalement il a opté pour cette solution. Bon, ça concerne 110 policiers. Et ça concerne quelques mois. Moi, je crains que, en cas de réel problème ou agression, ça n'y changera rien. Ce malheureux dans son bureau sans armes. Alors, on nous explique quand même que ce malheureux dans son bureau sans armes, s'il y a vraiment une agression, pourra prévenir la police qui, elle, sera dehors. Voilà, finalement, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'il aura un téléphone.
Un agent, quoi. Un agent policier.
Un lien avec la police qui, elle, sera dehors et armée. Oui. Voilà.
Ce que le directeur de l'école doit être en capacité de faire, j'imagine qu'il a un téléphone aussi, mais bon.
Bon, donc pas convaincu par la proposition d'Estrosi, même vous,
Annika Menac,
qui était là ce matin, qui était là ce matin à l'écouter donc chez Yves Calvi. Merci à tous.
Il y en avait d'autres, hein, on était plusieurs millions. Hein.
Normalement, si tout va bien, ça devait être comme ça, normalement.
Il faut l'espérer.
Merci à tous les quatre, Nicolas Domenac, Virginie Le Guay, Xavier Couture et Yvan Rioufol. Dans un instant, le flash de 20h, donc avec Céline Landreau.
Vous écoutez RTL.